Bonjour à tous, je suis Stéphanie Galigani, Françoise Bock. Donc oui, par rapport à la commande, c'est un duo inédit. Chacune travaillant dans un domaine différent, mais qui se rejoignent par des problématiques communes. Françoise travaille plutôt en didactique du FLM, et moi je travaille plutôt en didactique du FLS, FLSCO et FLE. Voilà. Alors, déjà, merci Marie-Odile de nous convier à cette journée de formation. Journée de formation qui a vraiment la particularité d'être commune aux enseignants de classe ordinaire et ceux de dispositifs UP2A. Et notre intervention à deux voix se propose d'interroger la pertinence de la démarche inductive dans l'enseignement de la langue aux élèves, que ces élèves soient francophones ou allophones. Alors les questionnements, les difficultés rencontrées dans l'enseignement de la langue de l'école et de sa maîtrise, on l'a vu tout à l'heure, ne sont pas l'affaire que des enseignants de dispositifs du PE2A, mais de tous les enseignants, toutes disciplines confondues. L'outil que nous allons vous présenter et que vous allez pouvoir expérimenter dans un instant peut être mis en place à la fois dans des dispositifs UP2A, mais aussi dans des classes ordinaires. L'objectif étant, on l'a vu aussi ce matin dans les interventions, d'établir des ponts, d'établir des relations entre ce qui se fait d'une part en UPE2A et ce qui se fait d'autre part en classe ordinaire. Comment créer ces relations? Alors lorsque Marie-Odile nous a invités à participer à cette formation de formateurs, nous avons été interpellés par la juxtaposition dans le titre donné à cette formation de deux termes, francophone, plurilingue, deux termes qui n'ont généralement pas l'habitude de cohabiter dans les expressions utilisées dans les textes officiels, hein, dans les textes de l'éducation nationale, mais aussi dans les circulaires ou encore dans les discours enseignants, pour désigner ce public scolaire qui nous rassemble aujourd'hui. Alors dans cette intervention qui arrive en fin de formation, en fin de ces journées de formation, nous souhaiterions en guise d'introduction revenir sur le titre donné qui suscite des questionnements liés à la dénomination de ce public. En effet, ces deux termes, francophone plurilingue, m'ont permis d'alimenter la réflexion que je mène depuis quelques années sur les expressions, les désignations utilisées dans les textes officiels et en particulier dans les circulaires de l'éducation nationale pour désigner l'enfant, l'élève venu d'ailleurs et scolarisé en France. Ces expressions sont le plus souvent porteuses de différences et agissent en quelque sorte comme des marqueurs d'attributs, des catégories, encore des statuts. Elles inscrivent l'enfant qui va devenir élève au sein de notre école dans un réseau d'identification sociale et ces expressions vont participer à sa reconnaissance, à sa stigmatisation, en tant que membre d'un groupe d'appartenance. Ces expressions vont participer à sa différenciation par rapport aux autres élèves des classes ordinaires. À titre d'exemple, pour illustrer la diversité des expressions que l'on utilise pour désigner ce public, il suffirait que je vous demande quels termes, quelles expressions vous utilisez pour désigner ce public scolaire. Quelques suggestions? Étranger. Allophone. C'est le terme à la mode. Enaf. Nouveaux arrivants. Primo arrivant. Nouvellement arrivé. D'autres expressions? Non francophone. Il y en a. Ah, Ena. Et Anna. Ah, bah excusez-nous, nous on dit ENA. Et voilà. Voilà, donc tout dépend comment vous allez prononcer ce sigle. Donc vous voyez, par rapport à ces différentes expressions qui sont circulantes dans les discours enseignants, ces expressions sont autant de catégorisations utilisées, que l'on retrouve dans les circulaires de l'éducation nationale et qui viennent compléter la liste des désignations que l'on peut relever depuis les années 1970. En fait, quelles que soient les dénominations utilisées par l'éducation nationale, toutes vont manifester dans le choix du lexique que l'on va utiliser, hein, le lexique de l'altérité, un critère qui va les différencier des autres. Alors, ces critères sont souvent liés à l'origine, on l'a entendu tout à l'heure dans des expressions, à la nationalité, souvent aussi à l'appartenance sociale de la personne, ou encore, ce que disait Marie-Odile par rapport à son intervention, aux aptitudes, hein, aux compétences linguistiques de ces élèves, qui correspondent le plus souvent à des compétences non maîtrisées. Alors, je vais prendre quelques exemples à partir de critères repérés dans différents circulaires de l'éducation nationale depuis les années 70 pour illustrer ces différents actes de catégorisation. Et on va commencer par le critère juridique et social. Alors, j'ai relevé dans ces différentes circulaires les expressions utilisées. On voit « enfant de migrant » dans la circulaire de 86, qui aboutit dans le texte à des amalgames entre « enfant de migrant »,« enfant enfant primo-arrivant », on l'a entendu tout à l'heure dans les expressions, et la confusion vient avec « enfant issu de l'immigration ». C'est-à-dire des enfants qui sont nés sur le territoire français et ce qu'on nomme les secondes générations. On a aussi enfants de migrants étrangers, donc là on insiste lourdement sur leur caractère d'étrangeté. Nous avons encore enfants étrangers. Alors on a enfants de nationalité étrangère dans la circulaire de 2002, et là c'est vraiment le critère de la nationalité qui est pointé, qui est visé, critère de la nationalité qui est discriminant, qui est discriminatoire, parce que vous le savez mieux que moi que ce critère de la nationalité n'est pas pertinent, parce qu'on peut avoir des enfants de nationalité française mais qui ne sont pas francophones. Élèves immigrés, ça c'est la circulaire de 75 qui apparaît dans le titre même de cette circulaire, enseignement des langues nationales à l'intention des élèves immigrés dans le cadre des cours de tiers-temps d'école élémentaire. Autre critère, les critères liés aux compétences psycholinguistiques. Alors, je vais m'attacher particulièrement à cette circulaire de 78, je ne sais pas si vous l'avez eu entre les mains. On a plusieurs expressions, enfant immigré, enfant étranger, enfant de nationalité étrangère. Ce sont des expressions qui sont utilisées de façon indistincte. Mais ce qui est particulièrement confondant dans cette circulaire, c'est la description que l'on va pouvoir faire de cet enfant immigré, étranger ou de nationalité étrangère. On a affaire à une description psycholinguistique de cet enfant étranger. J'ai mis en gras ce qui me paraissait le plus alertant, le plus affreux, effectivement. Il n'en reste pas moins qu'ils rencontrent, donc ces enfants étrangers, des difficultés spécifiques dues à un handicap linguistique diffus et à une insertion partielle dans le milieu culturel français. Alors, cette affirmation, handicap linguistique diffus, conduit de façon insidieuse à sanctionner les pratiques familiales qui sont jugées souvent comme responsables de la non-maîtrise de la langue de l'école par ces enfants. Et lier les difficultés scolaires à leur origine sociale, culturelle ou linguistique, revient fatalement à placer ces enfants en situation d'échec scolaire et à les écarter des sentiers de la réussite. Alors, 78, on peut faire l'hypothèse que ce portrait stigmatisant fait écho aux travaux d'un sociologue britannique, Basil Bernstein, qui en 75 s'est intéressé à la question des inégalités sociales en matière d'éducation à partir des relations entre social, langagier et cognitif, et sa théorie débouche sur un concept fort qui a fait beaucoup de dégâts dans le milieu de l'éducation, qui est celui le concept de déficit ou de handicap socioculturel. On peut voir encore que ce terme de handicap est présent dans les discours circulants concernant ces enfants étrangers. Alors, on va terminer par le critère lié aux aptitudes et compétences linguistiques. On a le titre de la circulaire de 2002, Organisation de la scolarité des élèves nouvellement arrivés en France, sans maîtrise suffisante de la langue française ou des apprentissages. Ce titre de la circulaire de 2002, on voit les élèves nouvellement arrivés. Alors certains pourraient croire que cette expression vient de cette circulaire de 2002. Or, depuis 86, on retrouve cette expression dans les circulaires, les enfants nouvellement arrivés. Et on pourrait, par cette expression, enfants nouvellement arrivés, on pourrait croire on a affaire à une population d'élèves assez homogène, ouais, tous ceux qui arrivent, tout comme l'expression nouveaux arrivants, qui est présente également dans cette même circulaire. Et là, je reprends un propos de Raffoni, qui dit avec la dernière dénomination, donc ça date de 2009, élèves nouvellement arrivants en France, qui succèdent dans les textes officiels à élèves primo arrivants non francophones, ont faim d'apporter un éclairage suffisant qui rende homogène cette population d'élèves. Or, vous le savez que on n'a pas affaire à un public homogène, loin de là, et qu'il y a des différences considérables entre les enfants, selon que les enfants aient été scolarisés ou non en pays d'origine, selon leur trajectoire migratoire, selon les langues premières, maternelles, au pluriel, selon qu'ils aient pu bénéficier d'une prise en charge linguistique à leur arrivée, etc., etc. Alors, une autre expression utilisée, c'est celle de enfants étrangers non francophones. C'est la circulaire de 73. Il y a un petit raté. Et de 2002, pardon. Où elle cumule à elle seule la nationalité, élève étranger, non francophone. Enfin, et la négation, moi, ce qui m'intéresse, c'est la négation, le nom qui est contenu dans l'expression, qui est un élément de composition de l'adjectif et qui marque ainsi l'opposition entre ceux qui partagent la langue de l'école et les autres. La question de la maîtrise de la langue, elle est centrale, vous le savez, dans le processus d'intégration, ou devrais-je dire plutôt dans le processus d'inclusion, hein, c'est le terme qui est à la mode, le lexique est en vigueur. L'école, en tant qu'instance éducative, instance de socialisation, devient l'espace privilégié pour l'apprentissage du français, ou plutôt devrais-je dire l'apprentissage d'un français, celui de l'école. Il faut l'enseigner à l'élève comme matière, comme vecteur des autres matières disciplinaires, comme idiome de communication scolaire, c'est-à-dire l'employer et le faire vivre comme langue de scolarisation. Alors, face aux pressions exercées par l'institution et en dehors de l'institution, l'ambition est d'assurer à ses élèves, le plus vite possible, une maîtrise suffisante de la langue française pour leur garantir une entrée dans les apprentissages scolaires le plus largement possible et leur inclusion sociale et scolaire. J'en viens maintenant à la dénomination rencontrée dans la circulaire de 2012, hein, celle que j'ai entendue, je n'ai entendu que celle-ci ce matin dans l'intervention des quatre collègues. C'est l'expression « élève allophone » nouvellement arrivée. Alors, c'est une expression qui permet dès lors de ne plus se focaliser sur ce que ces élèves ne sont pas, sans maîtrise suffisante au niveau de la langue, des apprentissages scolaires non francophones, etc., mais sur ce qu'ils sont véritablement. En effet, si on prend la définition de allophone, hein, qui désigne une personne dont la langue première maternelle est différente de celle de la communauté dans laquelle cette personne vit, cette nouvelle dénomination en vigueur depuis 2012 permet de désigner un public scolaire qui parle une langue autre ou qui parle des langues autres que la langue de l'école, de sorte que cette expression participe enfin à la reconnaissance de la pluralité des répertoires verbaux des élèves, mais aussi à la reconnaissance de leur plurilinguisme. Parler d'allophone permet ainsi d'indiquer que l'enfant est né et a grandi avec une autre langue ou d'autres langues familiales que le français, De plus, ce terme d'allophone a le mérite de ne plus faire référence aux circonstances sociales, aux circonstances familiales liées à l'arrivée de l'élève en France, mais de se recentrer uniquement sur la problématique de la langue. En effet, on peut rencontrer, vous l'avez dit ce matin, des élèves qui sont allophones et qui ne sont pas nouvellement arrivés ou nouveaux arrivants. Mais ce sont des enfants qui ont un rapport plus ou moins éloigné, voire quasi inexistant, avec le français de l'école pour des questions sociales, familiales, communautaires, etc. Et puis, en parlant d'élèves allophones, on fait référence à des élèves qui ont un besoin spécifique lié à l'apprentissage du français. Alors, j'en reviens au titre donné à cette journée de formation, qui juxtapose, comme je l'avais dit en introduction, deux termes francophones plurilingues. Alors, francophone, c'est bien l'objectif qu'on se fixe. Que se fixe l'institution scolaire, c'est rendre ses élèves francophones en leur apprenant le français, en leur apprenant à maîtriser cette langue de l'école, cette langue de leur environnement, langue de socialisation, langue garante de la cohésion sociale, etc. Mais l'aboutissement de cette évolution linguistique, de l'évolution de leur répertoire verbal, n'est en aucun cas le monolinguisme en français, mais bien le développement de leur bilinguisme, voire de leur plurilinguisme. D'où l'ajout nécessaire du terme plurilingue à côté de celui de francophone dans le titre de cette journée, qui fait qu'on n'est pas contraint d'abandonner ces langues premières au profit du français. Bien au contraire, et là je vais faire référence à l'excellent document publié sur le site EduSchool et qui s'intitule « 10 idées reçues sur l'apprentissage de la langue française par les élèves allophones nouvellement arrivés, les ENA ». Alors, il y a 10 idées reçues, j'en ai sélectionné deux qui nous intéressent particulièrement pour cette intervention. L'idée reçue numéro 3, selon laquelle un élève étranger doit faire le deuil de sa langue d'origine s'il veut apprendre le français. Sa famille, notamment, doit au plus vite parler français à la maison. C'est une idée reçue. L'argument qui est avancé dans ce document EduSchool, c'est que maintenir, renforcer les compétences dans les langues en contact est toujours bénéfique. D'accord ? Fini le discours, hein, fini le temps où les enseignants disaient au portail, aux familles qui venaient récupérer leurs enfants, arrêtez de leur parler en langue d'origine, parlez-leur français, alors que ces familles ne parlaient pas français. Non mais on avance. Positivement, on avance. Idée reçue numéro 5, il est impossible d'apprendre à lire et à écrire dans deux langues en même temps. La langue maternelle va interférer et provoquer des erreurs d'apprentissage. Alors la réponse donnée est la suivante, il est souhaitable d'apprendre les langues les unes en lien avec les autres, d'où les passerelles, les ponts à établir entre les différents apprentissages. Mais cette image, cette idée reçue est bien ancrée dans les mentalités et c'est vrai qu'on a du mal à la désenquister malgré les recherches qui vont dans le sens opposé. Donc il apparaît très clairement que la mise en relation de ces deux termes, et je remercie Marie-Odile d'avoir choisi ces deux termes, parce que ça suscite réflexion. Alors on pourrait juger, certains d'entre nous pourraient juger que ces deux termes sont très mal assortis, francophone et plurilingue. Mais ces deux termes juxtaposés sont là pour nous témoigner qu'être francophone, c'est être au moins bilingue, voire plurilingue, aujourd'hui. Et je reprends là une idée de Cerchiglini dans un entretien qu'il a donné dans Le français dans le monde en 2004, où il traitait justement de la diversité des usages du français. Mais être francophone ne veut pas dire partager les mêmes normes d'usage. On ne saurait effectivement s'en tenir à une image d'homogénéité, d'uniformité qui est loin de correspondre aux réalités de l'actuelle société française. L'usage de cette langue donc ne se caractérise pas par son homogénéité ni par son uniformité. Et je vais reprendre là les propos de Jean-Pierre Cuc, 91, lorsqu'il disait « Il serait sans doute judicieux de profiter de la présence du « s » à la fin du mot français pour lui affecter le nombre pluriel et admettre qu'il existe des Français plutôt qu'un Français ». La variation des formes, la variation des normes du français, telle qu'on peut l'observer dans les usages qu'en font les élèves, se heurte sur le terrain scolaire à une approche unidimensionnelle du français, en référence à une norme, le français de l'école. Si bien que lorsqu'on parle du français langue de scolarisation, un concept, expression qui est fort répandue dans nos domaines, il me semble que cette expression de français langue de scolarisation ne sert pas uniquement à, et pas seulement à caractériser l'apprentissage du français pour les élèves allophones, des élèves à besoins spécifiques, mais on peut englober, cette expression peut englober tous les élèves qui ne partagent pas nécessairement les formes et les normes de la langue de l'école. Donc là, on a affaire plutôt à une expression englobante qui va permettre de rassembler ce public scolaire. Et si je reprends un extrait du document d'Eduscol concernant les 10 considérations préliminaires sur l'enseignement du français et en français comme langue seconde, j'apporterai quelques petites modifications à ce texte que je me suis permise de mettre en rouge et que je vous laisse découvrir. Quels sont donc les outils qui permettraient d'englober dans la classe tous les élèves? Cette question, elle est d'autant plus importante depuis la mise en place des UPE2A, dans la mesure où les élèves allophones ne sont plus à temps plein en classe d'accueil, si on prend l'exemple du second degré, mais vont bénéficier entre 6, 12, 15 heures en moyenne de FLE, de FLS, etc. Donc, passant la moitié de leur temps en cours de FLE, FLS et en classe ordinaire, comment les aider à une meilleure inclusion? Comment les aider à prendre leur rôle d'élève? Comment les aider pouvoir utiliser les ressources langagières qui sont travaillées à la fois en classe ordinaire et en UP2A? Comment les aider à les mettre en relation? Autrement dit, quelles articulations construire entre ce qui se fait en classe ordinaire et ce qui se fait en UPE2A?
Bien entendu, nous n'avons pas de réponse complètement arrêtée sur la question. On est là pour y réfléchir ensemble. Cela dit, il nous a semblé que c'était cette question-là qui était au centre de ces journées de formation. Hein. Quel pont construire, comme l'a dit Stéphanie, entre les pratiques d'enseignement du français qui sont adoptées en classe ordinaire et en classe UPE2A, peut-on envisager des mêmes pratiques dans ces deux contextes, de manière à ce que l'élève qui passe d'un contexte à l'autre puisse s'y retrouver à un moment et éviter ce cloisonnement dont on parlait? Et donc là, nous, on a réfléchi à la démarche inductive en se disant que peut-être c'était un des moyens possibles pour assurer cette continuité entre ces deux structures-là, la classe ordinaire et UPE2A. Donc alors, pourquoi la démarche inductive? C'est ce qu'on voudrait vous soumettre aujourd'hui comme questionnement. Parce qu'a priori, c'est une approche qui est englobante. L'enseignant travaille avec tous les élèves en même temps. Et alors, on va tout de suite derrière avoir un exemple de démarche inductive, de manière à ce qu'on dit là prenne un petit peu corps. Une approche qui est à la fois englobante, mais aussi personnalisée. Et bien entendu, l'enseignant qui a des élèves allophones dans sa classe a besoin de savoir où chacun se situe. Une approche avant tout stimulante, j'aurais d'ailleurs dû le mettre en premier, puisque l'approche inductive part du principe que tous les enfants sont chercheurs, donc elle transforme sa classe en chercheur. Et puis une approche réflexive, dans le sens où le but de l'approche inductive de la langue, c'est de permettre de déclencher chez ses élèves des prises de conscience par rapport à la langue. Et donc, on travaille sur le fonctionnement effectif de la langue, ses prises de conscience par rapport à ce fonctionnement effectif. Alors, la démarche que je vais vous proposer là tout de suite, c'est une démarche qui est appelée la grammaire en couleur. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent. Elle est tirée au départ des travaux de Caleb Gattegno, qui était philosophe et mathématicien américain, enfin, qui a immigré aux États-Unis plutôt. Et c'est cette démarche-là, peut-être que vous connaissez la lecture en couleur, c'est aussi de Gattegnaud. Et Maurice Laurent, qui est formateur actuellement et qui a travaillé toute sa carrière à l'École internationale de Genève, donc avec des élèves francophones et allophones, a réutilisé ces travaux-là pour élaborer cette grammaire en couleur. Donc là, il y a la référence. Je pense que ce diaporama pourra aussi être diffusé si ça vous intéresse.